Moi, je fais partie de ceux, comme disait Maryse, qui veut pas sortir des fêtes, qui veut pas quitter les fêtes, et surtout quitter notre petite fille qui est née le mardi 16 décembre, quitter la petite Alice, 2,9 kg, 48 cm, un tout petit bout. Et on a été le week-end dernier la voir, et on avait envie de citer le psaume 139, je te loue de ce que je suis, de ce qu'elle est, une créature si merveilleuse. Ça nous fait penser aussi à Jésus dans sa crèche, petit bébé, toute la fragilité et la vulnérabilité du bébé. Lui, le Christ Pantocrator, tout puissant, est né dans une étable, dans la fragilité et la vulnérabilité d'un petit bébé comme Alice Van der Does, née à Aix-en-Provence. Faut le faire quand même. Bon, bref, nous allons bientôt arriver dans cette période, Maryse en parlait, enfin, on est dans cette période un peu transitoire entre chien et loup, et dans cette période tellement particulière de janvier, où nous allons vivre une inflation. Alors, pas une inflation financière, ça c'est tous les jours de l'année, 2025, mais une inflation de bonnes paroles. Paroles de vœux, de bonheur, des souhaits de réussite, de prospérité, etc. Les Suisses disent tout de bon. Et nous, on a envie de dire, allez, plein de bonnes choses. Et voilà. Et on veut dire, alors c'est sympa, mais c'est un petit peu des paroles. Alors, je ne veux pas dire en l'air. Ça pourrait être un peu de blabla. Je ne veux pas jouer au trouble-fête, ni faire la grise mine. J'aime bien recevoir de bons vœux, et c'est une bonne habitude, et on montre que l'on pense à l'autre. Mais l'impression générale, c'est qu'on en rajoute quand même un tantinet. Et on peut se demander à raison, quel est le poids de ces paroles? Ne sont-elles pas juste des paroles en l'air, un petit peu vides? Est-ce qu'elle engage celui qui les prononce, ou il en serait des souhaits et des vœux de début d'année, comme des promesses électorales qui, comme chacun sait, n'engagent que ceux qui y croient, et jamais ceux qui les disent? Oui, on peut s'interroger sur le poids donné à ces paroles qui sont dites un peu en l'air, dans l'air du temps. Et je me dis qu'on a besoin de retrouver quand même des paroles vraies, solides, qui sont dites par quelqu'un qui l'est tout autant, solide, des paroles sur lesquelles on peut appuyer une vie, des paroles qui sont dignes de foi. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques paroles de Dieu pour l'année 2026. Je ne vous souhaite pas bonne année parce qu'il paraît que c'est... Mais on n'est pas superstitieux ici. Il y a des chrétiens qui m'ont dit de ne pas souhaiter bonne année avant le jour de l'an. Je dis, mais c'est incroyable. On souhaite bonne année quand on veut. Avec le Seigneur, évidemment. Bon, quelques promesses pour l'année 2026. 2026, une année de paroles un peu vides. Blablabla. Parole, parole, parole. Ou une année pleine de promesses. Et je vais commencer par parler du champion des toutes catégories de la promesse. C'est Abraham. Hein, j'ai cru voir, voilà, c'est ça. Ultra sensible, m'a-t-on dit, la zapette. Abraham, le champion de la promesse, qui a impressionné des générations par sa capacité de vivre sa vie sur les promesses de Dieu. Appuyé sur les promesses de Dieu, qu'a impressionné le philosophe Kierkegaard, qu'il faut dire en danois Kierkegaard, mais qui est un philosophe existentialiste qu'on nomme chrétien, et qui parle du saut de la foi d'Abraham, comme un saut, je cite Kierkegaard, de 70 000 mètres de fond. Impressionné Kierkegaard, Abraham. Mais Paul aussi est impressionné par Abraham, puisqu'il écrit aux Romains. Alors je cite, je lis le verset avant ce verset qui est à l'écran. Espérant contre toute espérance, dit Paul en parlant d'Abraham, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais, face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alors, on le sent pas trop en français, mais dans l'original, en grec, ce verset est incroyablement dynamique. On y parle d'une foi qui ne serait pas statique, mais une foi en mouvement. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament ont inventé, pour parler de la foi en Christ, la foi chrétienne comme celle d'Abraham, en particulier une nouvelle expression inconnue du grand public de l'époque. Il ne s'agit pas de croire en, je crois en ceci, mais de croire vers. C'est nouveau. En français, ça sonne pas bien. Croire vers, ça va pas. Il y a un problème de syntaxe. Mais c'est dans le grec. On croit vers, en mouvement, en action, comme un élan pour faire le grand saut de la foi. Et dans notre texte, le texte de Romains 4, il le dit deux fois. Mais vers la promesse de Dieu, il ne douta point. Vers la promesse de Dieu. Et deuxième fois, dans le texte qui n'est pas apparu, mais sur l'écran, mais que j'ai lu, il crut vers le fait d'être père d'un grand nombre de nations. En français, c'est pas beau, mais c'est le sens qui est donné au mot croire. On croit vers. Alors Abraham n'avait pas trop d'éléments tangibles pour croire en la promesse d'une grande descendance, son épouse, et lui avait bien passé l'âge, mais il prit son élan pour croire en la promesse de Dieu, pour prendre Dieu au mot. Et c'est cela la foi. Quelqu'un disait, en effet, la foi, boum, ah, j'aime bien, c'est l'enclume dans mes, voilà. La foi, c'est prendre Dieu au mot. On la refait? Non, je vois. La foi, c'est boum, prendre Dieu au mot. Bon, bref. Et, dans la Bible, les chrétiens, vous et moi, ceux qui ont donné leur vie au Christ, on est appelés les enfants de la promesse. Parce qu'on est bénéficiaires de la promesse faite à Abraham, qui a donné le Christ, Jésus, mais aussi on est appelés à vivre de la même manière qu'Abraham, fondés sur les promesses, prendre Dieu au mot de ses promesses pour 2026. Et je voudrais vous proposer ce matin trois promesses qu'il a pour nous. Il y en a beaucoup, des promesses. Peut-être vous pensez à certaines promesses bibliques, mais il fallait choisir. J'en ai choisi trois. Et la première de ces promesses est pour le temps de l'épreuve. Et les épreuves vont faire partie de la vie en 2026. Quand on dit bonne année, ouais, elle sera en fait ce qu'elle sera. Elle sera peut-être bonne avec les épreuves. Mais on peut être sûr qu'il y en aura, mais on ne connaît pas tout à fait l'intensité. Mais une promesse de Dieu est faite à ce sujet par l'intermédiaire de Paul, écrivain inspiré par Dieu lui-même. Regardez, 1 Corinthiens 1, 10, 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces en 2026. Mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Promesse pour 2026. Et il y a là deux aspects liés à cette promesse concernant l'épreuve. D'abord, Dieu promet que l'épreuve ne sera pas au-dessus de nos forces. Alors vous voyez l'image là, un peu sur le côté, un âne a pris ou une charrette pris en flagrant délit de surcharge. Mais c'est un âne et nous sommes des hommes et des femmes entre les mains de Dieu qui nous connaît, nous et nos capacités. On est un petit peu comme dans le livre de Job où Dieu permet à l'adversaire, c'est un petit peu étrange, mais de mettre Job à l'épreuve, mais il lui dit aussi « jusque-là, mais pas plus loin ». Il y a une limite. Alors, on peut poser la question, où sont les limites? Quelles sont mes limites? Quelles sont les limites du supportable pour moi? Dieu promet que l'épreuve ne sera pas au-dessus de mes forces, mais où en sont-elles, mes forces? En fait, nos limites, on les connaîtra jamais. Et c'est heureux. Ce serait tellement angoissant de connaître nos limites et se dire à quel moment je vais atteindre mes limites du supportable. Dieu les connaît, lui, et ne permettra pas que ces limites soient dépassées. Pourtant, on a l'impression de voir parfois autour de soi, ou que ce qu'on voit autour de soi est insupportable. Si on avait dit à Corrie ten Boom, une jeune Hollandaise, qu'elle irait à Ravensbrück, un camp de concentration, qu'elle perdrait ses parents, son frère et ses sœurs, elle aurait dit « mais c'est insupportable, c'est au-delà de mes limites ». Mais Corrie ten Boom, Hollandaise, n'a pas été anéantie, au contraire, elle a puisé dans cette épreuve une force considérable et elle a eu depuis un ministère d'encouragement absolument incroyable. Mais ça s'est pas fait comme ça non plus. Hein. Mais c'est cette épreuve de Ravensbrück n'était pas au-delà de ses forces. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'il promet une issue à l'épreuve dans ce verset de 1 Corinthiens 10, 13. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et quand on regarde bien, on se dit qu'il y a un petit problème dans la phrase. Si Dieu donne une issue à l'épreuve, pourquoi faudrait-il encore la supporter puisqu'on en est sorti? Vous êtes d'accord? Vous m'avez suivi? S'agit-il vraiment d'une sortie d'épreuve? L'issue. Mais en fait, plus qu'une sortie de l'épreuve, Paul veut exprimer cette vérité de la part de Dieu, que Dieu promet la patience et la persévérance dans l'épreuve. Et c'est cela même qui constitue la sortie de l'épreuve. L'issue, c'est de pouvoir la supporter. On pourrait traduire, avec l'épreuve, il donnera l'issue qui consiste à la supporter. Et donc cette issue à l'épreuve, cette sortie, cette solution, ce n'est pas toujours de la voir disparaître comme par enchantement, mais une capacité accrue de pouvoir la supporter. Et c'est cette promesse que Dieu nous fait pour 2026 et pour nos épreuves. Il nous donne une force supplémentaire, une grâce surajoutée, une patience et une persévérance à toute épreuve. Vous me direz que ça ne change pas grand-chose au niveau de l'épreuve. Et vous auriez raison, mais cela change beaucoup au niveau de ma vie personnelle face à l'épreuve. Et cela change énormément au niveau de la paix face aux épreuves de 2026. Si Dieu promet que rien ne sera au-delà de mes forces et que, en plus, il me donnera en temps voulu la force pour pouvoir la supporter, eh bien, je pourrais vivre ma vie dans une paix que le monde ne connaît pas, comme nous en avons parlé le deuxième dimanche, le troisième dimanche de l'Avent. Et il me semble souvent que, par rapport aux épreuves, on vit l'angoisse de l'épreuve par anticipation. Si demain il m'arrive quelque chose, je ne le supporterai pas. Ou par projection, s'il m'arrivait quelque chose, comme il en arrive à celui-là ou à celle-là, je ne le supporterai pas. Projection ou anticipation. Mais avec cette promesse, je peux regarder la vie avec la paix que Dieu me donne, ni par projection, ni par anticipation, mais parfois dans les promesses de Dieu. Une promesse à vivre dans la paix, une promesse à saisir. Deuxième promesse à vivre, elle concerne deux ou trois personnes parmi nous seulement, ceux qui ont des soucis au travail, des soucis d'argent dans la vie, des problèmes avec l'administration ou avec la famille. Il n'y a personne qui a des soucis avec l'administration ici. Ou avec des gens inquiets pour l'avenir immédiat ou lointain. Ça fait très peu de gens, en fait. Non, c'est une promesse qui concerne les temps d'inquiétude. Et c'est Pierre qui en fait le messager, qui s'en fait le messager. Déchargez-vous sur lui en 2026 de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est une promesse. Qui pourrait dire en ce 28 décembre 2025 que cette promesse ne le concerne pas, qu'il n'en a pas besoin? Un jour, quelqu'un m'a dit que ses inquiétudes et ses angoisses l'enveloppaient jusqu'à l'étouffement. jusqu'à l'encerclement. Je me sens cerné, bloqué par les inquiétudes. Mais quand Dieu dit par Pierre de nous décharger, il choisit un verbe qu'il utilise, qui s'utilise autre part pour un manteau ou un pardessus. Vous savez, dans les restos un peu chic, quelqu'un vient et vous demande s'il peut vous débarrasser. Je peux vous débarrasser? Et il prend votre pardessus. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça, mais on fait ça normalement. Et c'est tout à fait cela. Dieu nous invite à nous débarrasser de nos soucis comme on se débarrasse d'un manteau que l'on laisse au vestiaire. Et Pierre nous invite à laisser nos soucis au vestiaire éternel. C'est parce qu'il sait une chose d'expérience. Dieu lui-même prend soin de vous. C'est là une promesse, et vous vous apercevez que c'est une promesse, mais elle n'est pas au futur. Dieu prend soin de vous, pas Dieu prendra soin de vous, mais Dieu prend soin de vous au présent, et le présent a un côté duratif dans le grec, et donc c'est un soin constant, un soin qui dure. Dieu prend soin déjà, Dieu prend déjà soin de nous. Alors, déchargez, déchargez. Et le fait de décharger, ce n'est même pas une condition à la réalisation de la promesse. Si vous vous déchargez, alors il prendra soin de nous. Non, c'est plutôt une conséquence. Déchargez-vous sur lui, puisque Dieu prend soin de vous. Pas une condition, une conséquence. Transférez-lui la charge de l'inquiétude. Les problèmes, faut-il le rappeler, ne disparaissent pas pour autant comme par enchantement. Je rappelle que le miracle est quelque chose de rare et d'exceptionnel, sinon ce n'est plus un miracle. Et Pierre écrit à des chrétiens qui sont sous la persécution, mais le poids, la persécution ne disparaît pas pour autant, mais le poids de l'inquiétude peut être transféré sur Dieu, et doit l'être, car il prend soin de nous, puisqu'il prend soin de nous. Alors, il semble que Pierre a très bien intégré l'enseignement de Jésus sur le serment sur la montagne au sujet de l'inquiétude. Au moins, il a retenu ça. Mais il l'a plus que retenu, il l'a intégré, il l'a digéré, et il semble expérimenter jour après jour ces paroles de Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car si il prend soin des moineaux et des fleurs de champ, pourquoi ne prendrait-il pas soin de vous, vous les humains, qu'il aime tout particulièrement? Un verset à répéter chaque matin, surtout en ces temps qui sont porteurs d'inquiétude, un petit peu comme tous les temps, mais personnellement, mais c'est peut-être parce que je vieillis, je trouve que c'est angoissant et inquiétant, ce que l'on entend. Mais, dans ces versets, Pierre met aussi l'accent sur un autre aspect de l'inquiétude, son rapport à l'humilité. Son rapport à l'humilité. Le verset qui précède cette promesse est important parce qu'il parle d'humilité. Qu'est-ce qu'il dit juste avant de vous décharger sur lui de tous vos soucis? Il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Se décharger, c'est un signe d'humilité. Que fait-on en se déchargeant sur Dieu de tous ses soucis? Eh bien, on pratique tout simplement l'humilité dans sa vie quotidienne et avec Dieu. Quand on est prêt à lâcher son manteau, à laisser cette personne nous prendre ce manteau. Quand elle nous dit débarrasser, je peux vous débarrasser, on abandonne en même temps la veste de notre entêtement, peut-être même notre orgueil, à vouloir assurer tout seul notre avenir. 2026, je m'en charge. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand on laisse les soucis à Dieu, on abandonne en même temps notre grand souci de vouloir contrôler sa vie, d'avoir la main mise sur elle. Alors se décharger, c'est pourquoi que se décharger n'est pas juste une thérapie pour les angoissés de la vie, comme on peut en suivre des thérapies dans le monde, c'est véritablement un acte d'humilité devant Dieu. Seigneur, je te laisse mes soucis, je te laisse le contrôle de ma vie, je te fais confiance. Et je termine comme pour ce point, comme pour la première promesse, en insistant sur le mouvement intérieur de l'âme ou de notre esprit qui ne croit pas en, mais qui croit vers. une foi qui se mobilise, qui prend Dieu au mot et qui laisse son manteau de l'inquiétude au vestiaire de 2025 pour aborder 2026. Troisième promesse à vivre, elle ira vite celle-là, mais elle vous paraîtra un peu étrange, elle nous parle du mouvement, de ce mouvement de la foi, c'est une promesse pour les temps de besoin. Avec cette phrase de Jésus, « Demandez et vous recevrez ». Waouh ! Il y a des ressources derrière, en Dieu, à disposition. « Cherchez et vous trouverez ». Dieu se laisse trouver, il est proche. « Frappez et l'on vous ouvrira ». Il y a quelqu'un derrière la porte. Une promesse dans ces temps de besoin ou de manque, ou de demande, et j'aime bien aussi cette parole de Jésus qui nous parle de mesure, que les choses nous seront données avec la mesure dont nous nous sommes servis pour donner, une parole de Jésus qui nous parle en fait de notre ouverture de cœur et donc de notre générosité, regardez ça, donnez et l'on vous donnera, on versera dans le pan de vos vêtements une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous êtes servis pour mesurer. Autrement dit, donnez sans mesure, et Dieu vous donnera sans mesure. Une mesure bien tassée, secouée et débordante, comme la vie abondante dont Jésus nous parle aussi. Une générosité du cœur qui contient bien des promesses d'abondance. Être généreux du cœur. Demandez et vous recevez. Et si 2026 était marqué par cela, par cette foi que la générosité du cœur remplit le cœur, et abondamment. Voilà, je termine ces trois promesses. Celle d'une épreuve qui ne sera pas au-dessus de nos forces et d'une persévérance à toute épreuve. Celle d'un manteau de soucis dont on peut se débarrasser car Dieu lui-même prend soin de nous. Celle d'un Dieu qui répond, qui se laisse trouver, qui ouvre la porte à ceux qui le lui demandent, à ceux qui, justement, font ce mouvement vers lui. Et donc, je vous invite à vous saisir de ces trois promesses pour 2026, dans ce mouvement de la foi. Elles sont à vivre, pas à regarder comme on regarde simplement un tableau dans un musée, à vivre dans ce tableau vivant dont je suis, dont tu es l'un des acteurs. Sans oublier que l'acteur principal, c'est Dieu lui-même et que en qui nous pouvons avoir confiance. Un Dieu qui tient toutes ses promesses. Des promesses à vivre, ou à saisir et à vivre par la foi. Et je terminerai par une citation de Bonhoeffer. Dieu réalise non tous nos désirs, mais toutes ses promesses.